Frères et sœurs, les amis, en ce quatrième dimanche du carême, nous rencontrons un texte très connu qui est la parabole, tout au moins dans l'évangile, selon saint Luc, de l'enfant prodigue. Alors, c'est le dimanche de l'étaré, c'est-à-dire de la joie intérieure, la paix intérieure. De même que nous rencontrons le dimanche de Gaudete pendant le temps de l'Avent, nous rencontrons cette halte dans la paix et la joie de ce dimanche de l'étaré au cœur du carême, comme une sorte de pause ou de bivouac, vous prenez l'image que vous désirez, au cœur de notre carême, parce qu'il s'agit véritablement de la joie de ce fils prodigue qui revient à la source de sa famille, de son éducation, et qui revient et retourne vers le Père. Alors, comme chaque fois, la toile de fond est celle-ci, qui semble être, à mon sens, la clé de ce passage de l'Évangile de Saint-Luc, puisque nous sommes au chapitre 15, verset 1 à 32, qui nous raconte cette parabole. Alors pourquoi une parabole? Parce que au début du texte, nous entendons ceci: les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, et les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Alors, ça me semble être la clé de ce passage. Dans les premiers mots, d'une part, nous avons les publicains et les pécheurs qui venaient tous à Jésus pour l'écouter, et de l'autre côté, nous avons les gens soi-disant honnêtes qui sont ces pharisiens et ces scribes. Il faut savoir que les pharisiens sont des personnes et des gens très, très, très bien, très pieux et fidèles à la loi de Moïse, et évidemment, ils ne peuvent être que choqués de voir Jésus fréquenter des publicains et des pécheurs. Donc, ces pharisiens, à la limite, voudraient faire la leçon au Christ. De plus, ces pharisiens étaient très conscients de la sainteté de Dieu. Il y avait à leurs yeux incompatibilité, donc tout simplement, entre Dieu et les pécheurs. Alors c'est pour ça que Jésus prend cette parabole pour tenter de faire aller un peu plus loin, plus profondément, ne pas rester un jugement d'apparence de la part de ces pharisiens et de ces scribes, de les faire un petit peu réfléchir afin qu'ils puissent découvrir un visage de Dieu à la limite qu'ils ne connaissent pas, à savoir le véritable visage du Père. Alors, ce qu'il y a de très beau, me semble-t-il, et de très, très, très intéressant, c'est que on s'imaginerait que le personnage principal de cette parabole serait l'enfant prodigue. En fait, il n'en est rien. Le personnage principal dans cette histoire, c'est le Père. Le Père, j'allais dire, avec un P majuscule, bien sûr. Ce père a deux fils, ce qui est très beau et très frappant dans cette histoire, c'est que ces deux fils ont au moins un point en commun, c'est-à-dire la manière dont ils considèrent leur relation avec leur père. Certes, ils se sont conduits de manière très différente, on le sait, c'est vrai, mais finalement, leur manière d'envisager leur relation avec leur père se ressemble. Le fils cadet a gravement offensé son père, c'est une affaire entendue. L'autre, non, en apparence. Mais ce n'est pas si sûr, car l'un et l'autre, en définitive, font des calculs. Celui qui a péché dit « je ne mérite plus » et celui qui est resté fidèle dit « je mériterai bien quand même ». Un peu quelque chose, voyez-vous. C'est ça qui me semble être le centre, le point le plus intéressant de cette parabole, et qui fait que ces deux fils ont des points communs. Mais l'attitude du père, lui, est à mille et mille lieues de tous ces types de calculs dans la tête de ses fils. Le père ne veut pas entendre parler ni de mérite, ni dans un sens ni dans l'autre. Il aime ses fils, point barre, j'allais dire. Il aime ses fils et c'est tout. Il n'y a rien à comptabiliser. Le cadet disait « Donne-moi ma part, ce qui me revient. » Et le père va toujours beaucoup plus loin. Il ne calcule pas. Il va dire « Tout ce qui est à moi est à toi. » Il ne se laisse même pas le temps au fautif, j'allais dire, d'exprimer une sorte de repentir. Il ne demande aucune explication. Il se précipite au contraire pour faire la fête. Car mon fils, que voilà, était mort. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais je pense que là, c'est la leçon fondamentale de cette parabole. Avec Dieu, il n'est pas question de calcul, de mérite, d'arithmétique. Alors que chez nous, c'est une logique qui est très souvent en place dans notre tête et dans notre tempérament et que nous avons du mal à quitter. En fait, quand on regarde toute la Bible de l'Ancien Testament jusqu'aux dernières pages du Nouveau Testament, c'est la mise en place de cette très très longue pédagogie et patiente surtout, comme nous le disions dimanche dernier, patiente pédagogie de Dieu pour se faire connaître à nous tel qu'il est et non pas tel que nous l'imaginons. Trop souvent, nous pensons à des calculs, à des mérites, si je fais ceci, je prends dans cela, si je fais ceci, je vais peut-être progresser, si ceci, si cela, et toujours, toujours, toujours en train de calculer. Et nous imaginons un Dieu qui tient des comptes de nos bonnes et de nos mauvaises actions. Alors je pense que à la mi-carême où nous arrivons, il est vraiment important de mettre tout ce type de raisonnement au placard et de rejoindre, si je puis dire, l'immense patience de Dieu à l'égard. Nous le disions dimanche dernier, Dieu est l'infinie miséricorde. Et rejoindre la miséricorde de Dieu, le terme même de miséricorde, est aux antipodes d'une manière quelconque de calculer. Alors nous pouvons demander dans cette Eucharistie ce dimanche de la joie, puisque la joie du Père est immense, elle est à l'égal de son immense miséricorde et son immense patience. Voilà pourquoi ce dimanche est celui de la joie du Père qui voit revenir son Fils, mais surtout pour nous qui restons ici-bas, la joie d'un Père miséricordieux et d'un Dieu qui n'est pas derrière son comptoir à calculer ce que je fais de bien ou ce que je fais de moins bien. Amen.